Donc bienvenue et voilà, et ce soir on accueille Joseph pour son livre La bataille du vélo, vaincre le système automobile, qui est paru à l'Escargot. C'est un livre très intéressant qui intéresse beaucoup, je pense, le Parisien, mais espérons que tu nous donnes des clés pour qu'il intéresse au-delà du Parisien. Joseph, pour commencer, je te propose de te présenter.
Ok. Je m'appelle Joseph Daluin j'ai été militant vélo, enfin j'ai commencé ma carrière dans les politiques cyclables et puis j'étais militant vélo à Lyon et puis par la force des choses j'ai été catapulté au bureau de la Fédération des usagers de la bicyclette en 2017. Donc la Fédération des usagers de la bicyclette, c'est une asso nationale dans laquelle il y a aujourd'hui 450 associations à travers la France. À l'époque il n'y en avait que 200. J'ai fait ça en parallèle de ma vie professionnelle qui à certains moments consistait à être chômeur, donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps et j'ai arrêté ça en 2021, mais c'est un sujet qui continue de me passionner. Voilà.
Et alors, c'est une présentation. Comment t'es tombé dans le vélo, on peut dire, est-ce que t'as toujours fait du vélo et du coup le sujet c'est un peu grandi avec toi, ou est-ce que finalement tu t'es d'abord intéressé politiquement à la question du vélo? Comment c'est venu?
Ça a commencé en cinquième, parce que mes parents avaient la flemme de trouver un moyen de m'emmener au collège un petit peu loin de chez moi, et du coup ils m'ont mis sur un vélo. J'étais, je crois, le premier de ma fratrie à être autonome à vélo pour aller au collège. J'imagine que c'est ça qui a été déterminant. Après, j'ai jamais fait de vélo. Je me déplace à vélo. J'aime pas particulièrement. Je fais pas du vélo pour faire du vélo. Je me déplace à vélo. Après, c'est vrai que c'est clairement un sujet qui m'a intéressé sur le volet le plan politique. Je le raconte un peu dans le bouquin, mais pendant mes études, j'étais là, catastrophe écologique, plein de philosophes, des techniques, plein de trucs, assommant. Moi, je me sens nul. Le vélo, ça me paraît un peu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille dessus. Je vais m'en faire ma niche, quoi. J'ai fait un peu ce pari à un moment, sans savoir où ça m'emmènerait. Mais je pense que c'était un bon pari, parce que plus j'avance, plus j'ai la conviction que rentrer dans les grandes questions relatives à la crise écologique par une approche concrète, c'est peut-être la seule manière d'avancer, quoi.
Et justement, ce livre, il est un peu né aussi de cette envie de traduire ces expériences et puis cette conviction que vraiment par le vélo se jouaient des questions plus profondes. C'est comme ça qu'est né un peu le projet du livre, ou il y a une autre histoire?
L'histoire, enfin telle que je la raconte dans le bouquin, mais du coup tant qu'à faire je vais vous vendre le bouquin, hein. L'histoire, c'est donc moi j'ai été impliqué dans les assos pro vélo à un moment d'explosion de la pratique du vélo, en tout cas vraiment de changement d'échelle, avec un sentiment, du coup une forme d'euphorie militante de c'est bon, maintenant on a gagné, après 20 ans 40 ans de militantisme dans le désert, On a dépassé un seuil et on est parti pour gagner, quoi. Un des signes de ça, ça a été en septembre 2018 l'annonce par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, d'un plan vélo national. Un Premier ministre qui dit c'est super le vélo, il faut le prendre au sérieux, on met de l'argent sur la table. C'était un grand moment, quoi, militant. Mais deux mois plus tard, ont eu lieu les Gilets jaunes. Par ailleurs, pour d'autres raisons professionnelles, je me suis retrouvé relativement impliqué dans le mouvement, on va dire, avec du coup une forte dissonance cognitive sur ce sujet-là. J'ai travaillé pour François Ruffin, par ailleurs.
Donc c'est Ruffin qui t'entraîne avec les Gilets jaunes, en fait.
Voilà. Donc l'histoire que je raconte dans le bouquin, c'est qu'on s'est retrouvé à une réunion deux semaines avant le premier acte des Gilets jaunes, en mode qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Moi j'étais là, évidemment, c'est des gens qui parlent de prix du carburant, c'est une poussée réactionnaire, c'est pas du tout intéressant. Et puis on m'a pas écouté. Et je pense que c'était plutôt bien de ne pas m'écouter, mais ça m'a aussi donné à réfléchir sur en fait quoi Est-ce que une dynamique vélo un peu superficielle telle qu'elle est en train de se déployer est vraiment satisfaisante ou pas? Je pense que non, même si elle est quand même intéressante. Et voilà, je parle depuis le militantisme pro-vélo tel qu'il existe malgré les critiques que je lui formule.
Avant de revenir justement sur ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que tu pourrais nous expliquer un peu la genèse de comment on en est arrivé là aujourd'hui concrètement, la place de la voiture, etc. Peut-être que tu peux nous refaire un peu la genèse de ces modes de déplacement sur les deux derniers siècles.
C'est peut-être un peu long, mais du coup, effectivement, je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à l'histoire dans les grands traits quoi, des transports, en tout cas en France. Et s'il fallait tirer trois apprentissages de mes recherches, d'abord, je pense qu'on peut découper l'histoire des transports globalement en trois périodes seulement, qui me semble un découpage suffisant, à savoir l'époque avant l'arrivée du chemin de fer, qui va du néolithique à 1850. Donc c'est une longue période de l'histoire de l'humanité où globalement les gens vont tous à la même vitesse à peu près, à savoir la vitesse du pas, quoi. Et la vitesse du pas, quelles que soient les infrastructures, c'est à peu près la même. Alors on a plus ou moins perfectionné l'usage des chevaux, mais ça n'a pas... c'était pas révolutionnaire, quoi. Puis après, il y a une période, donc la révolution industrielle, avec l'émergence du chemin de fer et du vélo, où la vitesse augmente considérablement, mais où... ce que je pense, c'est que ce transport-là, l'émergence d'un transport plus rapide que la simple marche va pas structurer autant la vie quotidienne que ne structurera donc la troisième période qui est celle de l'émergence de l'automobile, même s'il n'y a pas que l'automobile dans cette troisième période, mais en tout cas c'est vraiment l'automobile, on va dire l'étalon de la mobilité, et que ça va avoir des conséquences radical, ça va avec d'autres choses, mais en tout cas, cet âge du développement industriel va vraiment radicalement changer la morphologie des territoires, la représentation de l'espace et du temps chez les individus, et voilà. Et puis verrouiller la manière dont on se déplace, parce que l'automobile s'arroge le monopole radical du déplacement. Donc voilà, ces trois périodes-là, ces premiers apprentissages. Le deuxième truc que je trouve intéressant dans la genèse des systèmes de transport, c'est que ce qu'on a complètement occulté aujourd'hui, c'est que l'arrivée de l'automobile au début du XXe siècle, elle se fait dans la douleur, quoi. En fait, on a oublié ça parce qu'on baigne dedans, en tout cas notre génération, on baigne dans un monde qui est façonné par l'automobile. Mais les périodes de développement de l'automobile à partir des années 10 aux États-Unis et en Europe un petit peu plus tard, c'est aussi un grand moment de conflictualité autour des projets routiers, mais simplement de la présentation de c'est quoi un bon usage de l'espace public. Et ça, en fait, c'est un truc qui a été occulté. Et le dernier truc sur l'histoire, c'est tout, en fait, c'est tout. J'ai résumé les deux points. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi, ce que j'ai un peu envie de valoriser, forcément, d'un point de vue militant, c'est les controverses relatives à l'automobile, quoi. Que c'est le fruit l'émergence de l'automobile, elle est aussi le fruit d'un conflit politique, quoi. À la fois, il y a deux volets, quoi, dans la domination de l'automobile. D'une part, l'automobile comme outil crée sa propre domination, quoi, cette espèce de cercle vicieux de l'automobile. Mais ça, c'est une explication un peu très technicienne, sans, il n'y a pas besoin d'avoir un agent politique pour l'expliquer. Je pense qu'elle est intéressante, mais pas satisfaisante. Je trouve que c'est aussi intéressant de se dire la domination, la place de l'automobile dans nos sociétés, elle est le fruit de décisions politiques promues par des agents. Et ces agents étant les industriels de l'automobile, des politiques publiques portées par des hommes et des femmes politiques avec une idéologie, etc. Et retracer les décisions qui ont été hyper déterminantes dans la manière dont le transport a façonné son monde derrière.
Tu rappelles très bien dans ton livre les griefs habituels contre la voiture, la pollution, le bruit, la mortalité induite, etc. Mais tu insistes beaucoup, parce que c'est peut-être là le nœud culturel, sur l'aliénation produite par l'automobile. Est-ce que tu peux nous expliquer Quelle est la nature de cette aliénation et pourquoi c'est aussi important pour toi et peut-être un nœud pour imaginer autre chose, quoi.
Ouais, je pense que tout le monde est très conscient effectivement de ce qui ne va pas avec l'automobile, en particulier hein, sur le volet climat. Je pense qu'il n'y a plus grand monde pour dire que ça ne pose pas de problème. Il y en a tout un tas d'autres et j'en liste dans le livre si vous voulez l'acheter. Mais j'insiste pas mal sur le caractère on va dire, plus subjectif de ce que l'automobile nous fait en tant que civilisation, parce que pas gros, enfin parce que c'est aussi ma plus-value. Les autres l'ont très bien dit. Et enfin, l'aliénation, j'ai oublié la définition simple, mais en gros, c'est quand on fait ce qu'on n'a pas vraiment envie de faire, quoi. Ou quand on pense ce qu'on n'a pas vraiment envie de penser. Et donc, pour moi, l'aliénation, on peut la regarder à l'échelle individuelle. En fait, c'est intéressant de se regarder soi-même dans conduire, par exemple. Enfin, moi, j'adore conduire. Vraiment, j'ai du mal à être passager. Mon épouse peut témoigner, je suis vraiment atroce. Mais conduire, ça me met dans un état de transe très positif. J'ai l'impression d'avoir plein d'idées géniales. Évidemment, je peux pas écrire, donc je les oublie à la fin. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'impression d'avoir des idées géniales. Mais voilà, comme une forme d'ébriété. D'ailleurs, c'est intéressant parce que sobriété. Il faudrait une sobriété, donc diminuer ses besoins, etc. Et moi, je pense qu'on est dans une situation d'ébriété mobilitaire, c'est-à-dire qu'on on surconsomme des transports. Mais par ailleurs, je pense que c'est aussi lié au fait que la vitesse nous met dans une forme de transe, quoi, de l'ordre de l'ébriété. C'est juste comme ça. Mais l'aliénation automobile, elle, à l'échelle individuelle, elle se voit aussi dans notre perception faussée des distances. C'est intéressant, on dit c'est à 20 minutes en voiture. À 20 minutes en voiture, ça ne nous dit rien sur la distance réelle de quelque chose, mais c'est juste que c'est devenu l'étalon, et donc le territoire est devenu un temps de trajet en automobile, et donc pour moi c'est quand même un signe intéressant. Et l'autre chose sur le volet politique, c'est-à-dire que l'automobile est devenu tellement un impensé collectif, on n'arrive plus à attaquer, enfin à regarder, à faire face sérieusement aux maux causés par ce système-là. Je donne un exemple dans le bouquin, je donne là, il faut que je vous donne à manger. Il y a une commune dans l'Oise, une petite commune dans l'Oise, qui, pour sécuriser les piétons, a fait une bande marchable sur la route. Normalement, il y a des trottoirs qui sont là pour ça, et en fait, les gens se stationnent sur le trottoir, comme ça arrive dans plein de communes rurales, où en fait, il y a tellement plus personne qui marche, parce que tout se fait en bagnole, que les bagnoles se sont installées sur les trottoirs. Et le maire, l'histoire, c'est que la cantine sort de l'école communale pour aller dans un autre endroit, et donc il faut que les écoliers puissent aller de l'école jusqu'à la cantine, et donc il a besoin de sécuriser les trajets des enfants. Et plutôt que de dégager les voitures des trottoirs, on va dire, mais en fait, c'est quoi ce truc ? Il met une bande blanche sur la route qui est dédiée aux voitures en disant ça c'est la bande marchable, c'est pour sécuriser les piétons. Et je suis sûr que le maire est vraiment de bonne volonté, mais je me suis dit c'est quand même que personne se soit dit mais c'est hallucinant de faire ça. C'est un phénomène extrême, mais je pense que politiquement on est un peu tous dans ce truc là où on n'arrive tellement plus à s'attaquer à ce que l'automobile nous fait qu'on est un peu impuissant.
Malgré cette forme d'omniprésence dans nos esprits et d'absence de questionnement, tu montres bien qu'il y a quand même une vraie crise de l'automobile aujourd'hui. Est-ce que les Gilets jaunes, pour toi, en sont l'exemple le plus probant, ou comment tu définirais cette crise ?
On peut regarder la crise sous deux aspects, sous ses aspects positifs, les signes positifs. Les signes positifs, c'est notamment la hausse de la pratique du vélo à Paris, mais ailleurs. Et de manière générale, un désir d'autre chose, quoi, qui se manifeste plus ou moins clairement, mais il y a une forme de... On m'a contredit sur ce sujet-là, mais il y a c'est la fin de l'augmentation continue des distances parcourues en automobile. Depuis les années 50, tous les 10 ans, on se rend compte que les distances qui ont été parcourues par la population augmentent considérablement. Et là, c'est un peu en train de finir. Il y a pas mal de sondages qui pointent que une des manière dont les gens souhaiteraient se réapproprier leur vie, c'est ralentir la vie de manière générale, mais, et donc en particulier mieux maîtriser leur distance, moins avoir à franchir de distance. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils le mettent en œuvre, mais en tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Donc ça, pour moi, c'est un signe de quelque chose qui déconne entre la réalité matérielle et les aspirations des gens. Et après, la manière un peu plus négative de voir les choses, c'est il y a une saturation du parc automobile, c'est-à-dire que tous les ménages qui pouvaient acheter des voitures en ont acheté une ou deux. Et donc, on vend de moins en moins de véhicules automobiles, donc on en vend de plus en plus gros et de plus en plus cher pour compenser. Où il y a un autre signal intéressant, mais néanmoins un peu flippant, c'est, l'augmentation des controverses liées aux routes, liées à l'espace public. Enfin, il se passe quelque chose qui ne se passait pas il y a 20 ans, il y a 8 ans ou 10 ans de ma brève expérience. Une augmentation de la conflictualité sur la nature de l'espace public, sur les infrastructures de transport. Donc pour moi, c'est le signe d'une crise. Après, une crise, c'est pas forcément le signe que on est en train de tourner une page, quoi. Les crises, ça se dépasse. Le capitalisme est traversé par des crises que le capitalisme a dépassées. Et du coup, à mon avis, notre système de transport, il cherche un petit peu à réagir. Dans le bouquin, il y a une citation que je vais retrouver, je sais pas, parce qu'elle est très intéressante, d'un PDG de l'industrie automobile, donc Luca Di Meo, qui dit. Certains ont commencé à prendre l'automobile en grippe. J'ai toujours dit que si les gens commençaient à haïr notre produit, c'était game over. Et bon, de lire ça donc dans Le Parisien, ça m'a semblé très éloquent, quoi. C'est comme souvent les patrons qui parlent le mieux de leur business. Et donc, ce qu'on voit par rapport à cette crise, c'est que l'industrie automobile, entre autres, elle cherche à dépasser cette crise. De plusieurs manières. Une manière simple, c'est de faire du greenwashing en disant en fait, tout ce qu'on dit sur les méfaits de l'automobile, c'est faux. Regardez, on va faire des automobiles propres, sans aucun problème, ultra sécurisés, ce qui n'est pas vraiment ce qui se passe, mais voilà. Ou on va trouver des solutions techniques, vous inquiétez pas. Mais une autre issue de ça, c'est au contraire de polariser encore plus fort en disant critiquer l'automobile, c'est critiquer notre mode de vie, c'est un truc indépassable, c'est une forme de polarisation, une radicalisation quoi, de l'automobile. Donc, ce qu'on voit aussi arriver en France avec des méga pick-up, des trucs qui n'existaient pas, qui viennent imposer l'idée que l'automobile est quelque chose de déterminant dans notre existence. C'est un peu inquiétant. Il y a une étude récente de la Fondation Jean Jaurès qui pointe que l'automobile, c'est potentiellement le nœud de la réactance sur les questions climat, enfin que sur le face à l'enjeu climatique, les réactions les plus virulentes, plus virulentes donc par exemple complotistes, sont vraiment extrêmement centrées autour de l'automobile. On veut nous empêcher de rouler en automobile, etc. Et donc avec une radicalisation de l'automobile, c'est nous. Et c'est indépassable.
Cette radicalisation, elle s'exprime beaucoup médiatiquement à l'égard de ce qui se passe à Paris, c'est-à-dire où on a l'exemple d'une ville où il y a de plus en plus de vélos. Toi, aujourd'hui, quel regard tu aurais sur la manière dont le vélo a effectivement fortement progressé à Paris ? Est-ce que tu trouves que finalement ça trace une voie vers quelque chose de désirable, de transition hors du système automobile ? Ou est-ce que c'est un épiphénomène de bobo qui, de toute façon, n'avait pas de voiture ? Voilà. Ou est-ce que parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus et c'est vraiment un sujet de controverse médiatique. Donc peut-être, par cet angle-là, comment tu vois la situation ?
Un peu les deux choses que tu dis. C'est-à-dire que, clairement, ce qui se passe à Paris n'est pas ce qui se passe... c'est pas une révolution qui a commencé et qui va contaminer de manière mécanique l'intégralité du territoire. Ça peut devenir une forme de Disneyland où vivre à Paris sans bagnole, c'est cool et c'est de plus en plus cool, et je pense que c'est aussi désirable, en fait. Enfin, je trouve ça logiquement désirable, mais ce que je trouve très positif dans ce qui se passe à Paris, c'est que c'est la preuve que autre chose est possible, quoi. Qu'une transformation radicale de l'espace public dans une échelle de temps relativement brève est possible. Et que, enfin, mon sentiment, je sais pas, mais j'ai le sentiment que la gueule de l'espace public à Paris a changé radicalement. Et c'est, ça va être impossible de revenir en arrière dessus, parce que en fait, c'est vachement mieux, quoi. En fait, vraiment, on a libéré, on s'est libéré collectivement des voitures, quoi. Même si les gens râlent, en fait, j'ai du mal à croire qu'on va être capable de dégager les pistes cyclables en se disant, mais en fait, on reveut des deux fois deux voies en plein Paris. En fait, non, c'est quand même vraiment très agréable. Ça ne veut pas dire que tout est génial et qu'il n'y a pas des conflits. Mais ce qui se passe à Paris, pour moi, c'est quand même le signe de quelque chose d'autre imaginable, mais ça n'est pas suffisant pour imaginer que la révolution a vraiment commencé.
C'est vrai qu'on voit apparaître des conflits. Je remarque notamment qu'il y a des conflits entre des gens qui, depuis très longtemps, font du vélo à Paris et qui ont donc une pratique, on va dire, très consciente de là où il faut s'arrêter, où il faut se positionner, etc. Ils vont avoir tendance à fustiger les nouveaux cyclistes qui, non seulement, ont des vélos électriques, mais en plus, souvent, grillent les feux, etc. Quel regard tu portes sur ces controverses ? Est-ce que c'est, bon, finalement, classique ? Ou est-ce que, parce qu'on voit aussi qu'il y a là-dedans, bon, sur les feux rouges notamment, des choses qui nourrissent cette controverse et cette possibilité de réaction automobile face au phénomène cyclable.
Je pense que si je devais répondre à cette question dans un média, je ne répondrais pas. parce que c'est pas, moi, je trouve que ce n'est pas des questions très intéressantes profondément. Après, non, mais en fait, c'est des choses, c'est un peu des miroirs.
Je suis pas journaliste pour rien.
Non, mais c'est intéressant, c'est la question quand même. Je pense que c'est un peu des paravents ou des écrans de fumée qui permettent de ne pas aller beaucoup plus loin. Après, il y a deux trucs hein, sur les feux rouges ou en tout cas les règles du code de la route. Il y a deux choses. Pour moi, ne pas respecter le code de la route, ça peut vouloir dire deux choses. Soit on est des petits filous et on veut aller plus vite possible. Ce qui est une explication possible et vraie, soit c'est le signe que le code de la route n'est pas adapté à l'usage d'autre chose qu'une automobile, quoi. Que le code de la route est un des piliers d'un système de transport centré autour de l'automobile. Ou j'avais pris des notes parce que j'avais des trucs intéressants à dire. Ouais, c'est ça. Après, donc ça, c'est la question du code de la route. Après, il y a la question des civilités. Moi, j'ai toujours dit, plus il y a de gens qui font du vélo, mécaniquement, plus il y aura de cons sur des vélos. Enfin, au fond, c'est quand même pas forcément une... C'est mécanique. C'est juste qu'on s'est habitué aux cons dans des voitures et maintenant, il faut s'habituer à ces cons-là, qui sont peut-être les mêmes d'ailleurs, sur des vélos. Après, sur la question des vélos à assistance électrique, des vélos électriques ou assistance électrique, c'est pas exactement la même chose. Pareil, c'est une controverse que je trouve un peu pénible, mais en même temps, pour en dire deux choses intelligentes, bon, d'abord, un vélo à assistance électrique, ça a un impact écologique au moins 100 fois inférieur à une petite citadine électrique, donc c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête si quelqu'un passe de l'automobile, même électrique, au vélo à assistance électrique, il aura quand même un impact, on va dire... matière, climat, etc., beaucoup moindre sur la collectivité. Après, quand même, je pense que c'est quand même assez intéressant de se dire que le VAE, le vélo à assistance électrique, ça peut se lire de deux manières, quoi. Soit c'est une forme d'accommodement avec notre rapport au rapport dominant avec les transports, à savoir que faire du vélo à assistance électrique, c'est faire du vélo sans souffrir, quoi. C'est une manière intermédiaire de se réapproprier son corps, de se réapproprier un mode de transport différent. Ça, c'est on va dire, la manière positive de le penser, quoi. Une forme d'accommodement dont on peut espérer qu'il permettra de mettre plus de gens sur des vélos et donc de subvertir l'ensemble du système de transport. Ou, au contraire, une autre manière de le voir, et j'ai tendance à un peu le penser en ce moment, c'est une ruse de l'histoire pour... en gros, ne pas changer, quoi. C'est-à-dire, il y aura peut-être moins de voitures ou de scooters thermiques, mais il y aura plus de vélos électriques pour changer le minimum de choses dans notre système de transport, quoi. C'est pas encore flagrant à Paris, mais à Londres, où j'ai vécu, il y a très très peu de scooters thermiques par rapport à Paris, mais il y a énormément de vélos bricolés, en fait, qui sont des vélos avec un moteur de cyclomoteur. Qui permet à des livreurs ubérisés d'aller livrer leur repas à droite à gauche, comme un scooter, quoi. Et donc c'est des vélos, mais en fait c'est des scooters. Donc voilà, c'est l'ambivalence de ce moment où tout ce qui se passe est intéressant, mais pas forcément signe d'une révolution réelle, quoi.
Ah, à propos de révolution, c'est vrai que on est parfois surpris de voir à quel point tu projettes dans le vélo un potentiel révolutionnaire. Oui. Je pense que ces mots que tu utilises, de potentiel révolutionnaire, c'est interpellant parce que on peut, je sais pas, un écolo pourrait se dire bah oui, c'est important le vélo, mais ça fait partie de plein d'autres choses importantes. Et puis c'est quand même bon, pas non plus le cœur de nos vies. Pourquoi, pour toi vraiment, dans voilà, ce moyen de déplacement du vélo, il y a un potentiel révolutionnaire, donc un potentiel de changement du reste de la société, si on traduit.
Bah, je sais pas, on peut faire un sondage. Je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un rapport très conscient à la manière dont vous vous habillez, les choix que vous faites par rapport à votre habillement? D'un point de vue écologique, est-ce que c'est déterminant dans votre identité politique? Modérément. Alors, qui parmi vous se déplace très souvent à vélo? En tout cas,
je sais pas. Je déplace comment?
Très souvent à vélo. Et est-ce que vous considéreriez que c'est quelque chose qui est important dans votre identité politique? Ça m'a l'air d'être un peu plus franc. Donc pour moi, c'est un peu pour ça. C'est-à-dire que je constate que le vélo, ça a beau être un morceau de ton mode de vie, et ben en fait, ça a plus d'implications politiques que d'autres choses. Alors j'ai évidemment éludé la question de l'alimentation, parce qu'il y a des gens pour qui la question de la bouffe, en fait, a des implications politiques très fortes. Mais la raison pour laquelle je pense qu'il y a un potentiel révolutionnaire dans le vélo, c'est que se mettre à vélo, c'est une pratique individuelle, c'est un choix, mais qui politise plus ou moins consciemment sur les questions d'espace public. Parce qu'en fait, monter sur un vélo, c'est adopter une position d'intrus dans un système qui n'est pas fait pour. Enfin, ça dépend où, hein. Mais je pense que c'est quand même une expérience très commune de, sur un vélo, tu te rends compte tout à coup que l'espace public est hostile, que les distances ne sont pas calibrées, que le code de la route est une vaste hypocrisie. Voilà, je formule peut-être, c'est un vœu pieux, peut-être que je me trompe, mais je formule l'idée que le vélo est à la fois une pratique potentiellement anodine, mais qu'il tend plus ou moins inexorablement à une forme de politisation sur les questions d'espace public. En tout cas, moi, c'est un peu mon aspiration, quoi.
Maintenant, la question qui fâche, comment on fait hors de Paris? Comment, dans 5, 10, 15, 20 ans, on fait en sorte que, hors de Paris, des gens abandonnent la voiture pour le vélo, hors de Paris ou des grandes villes? Donc, à la fois, hors de Paris, c'est au-delà du périph', et puis à la campagne, dans des lieux qui semblent complètement réfractaires aujourd'hui. Voilà. Quel est ton plan?
Bon, d'abord, tu fais genre Paris et les grandes villes, mais Paris et les grandes villes, c'est quand même un gros morceau de la France, quoi. Faut pas non plus genre faire comme si ça concernait pas une bonne partie de la population en France. Donc déjà, c'est pas mal. Et après, pour le reste, bah, on se mobilise, quoi. Je dessine un programme dans le bouquin que je ne vais pas détailler, mais... Il y a deux sujets, quoi. Il y a le sujet dans les endroits où les déplacements tels qu'ils sont aujourd'hui sont substituables parce que les distances sont courtes, etc. Et donc c'est à peu près le cas, en tout cas en petite couronne et dans aussi beaucoup d'espaces périurbains ou de villes moyennes, en fait. Ouais. Une ville moyenne, c'est vraiment extrêmement facile de vivre sans voiture dedans. Enfin, ça dépend lesquelles, hein, mais en termes de distance nécessaire pour se déplacer... à accéder à l'emploi, au mode de commerce, etc. Et donc il y a cette question de, à système existant, comment on réussit à mettre les gens sur des vélos? Et donc il n'y a pas vraiment de mystère, c'est aussi rendre l'automobile moins attractive, moins évidente, quoi. Et donc ça implique de créer un rapport de force compliqué. Et donc voilà, les trois axes de mon programme, c'est rassembler, donc avoir plus de gens, grignoter, parce qu'en fait, à défaut d'être majoritaire, en tout cas d'être un camp politique qui pèse, on est un peu contraint de grignoter. Et puis c'est un peu la manière dont se construit l'espace public, hein. L'espace public, c'est un morceau de réforme, quoi. On fait des travaux voirie par voirie, morceau par morceau, quoi. Il y a pas de, on rase pas tout et on fait, enfin, on n'est pas en Chine, quoi. On n'est pas en mode genre on casse tout, on refait comme on voudrait. Donc on est un peu contraint de grignoter comme on peut avec des choses pas satisfaisantes et en même temps il faut faire. Et puis après il faut réussir à radicaliser ce qu'on réussit à obtenir, quoi. Et donc à aller plus loin dans nos demandes. Et après ça dépasse les questions territoriales. Mais après, sur la campagne, ce n'est pas forcément un truc que je creuse énormément dans le bouquin. Donc, enfin, je préfère vous le dire, que ce n'est pas fortement déçu. Mais pour moi, il y a deux choses aussi. Il y a les déplacements substituables. Il y en a, en fait. En milieu peu dense, il y a aussi énormément de déplacements qui sont inférieurs à 5 ou 10 km, et qui sont des déplacements faisables à vélo. Simplement, les vitesses sur les territoires ruraux sont extrêmement importantes. Et donc, une préconisation qui, d'ailleurs, est devenue la préconisation de la FUB dernièrement, c'est de couper libérer certaines voiries de leur trafic automobile pour les dédier au trafic vélo ou piéton, et éventuellement aux riverains. C'est une manière très astucieuse de ne pas créer de nouvelles infrastructures routières dont on n'a pas... on n'a pas vraiment besoin, en fait, et de réallouer une forme d'espace pour rendre les choses possibles. L'autre chose qu'il est possible d'imaginer en campagne, c'est pour les distances qui sont peut-être un petit peu plus longues, imaginer quelque chose qui soit entre le vélo et l'automobile, donc que les experts et les techniciens appellent véhicule intermédiaire. Donc voilà, des vélos à assistance électrique, des vélos mobiles, des quadricycles à moteur, à pédale, des trucs comme ça, qui sont plus légers que les automobiles et qui sont moins rapides, mais qui permettent quand même de rendre service à système existant. Mais surtout, la question, c'est est-ce que les campagnes et les territoires les moins denses aujourd'hui, ces territoires-là vivent aujourd'hui parce qu'on vit dans un système automobile. Et donc, ce n'est pas possible d'imaginer une substitution intégrale de ce monde-là au-delà de l'automobile, quoi. Sortir du système automobile, enfin sortir de ce système de transport, c'est aussi transformer ces territoires-là, les rendre plus denses, plus vivants, enfin, créer de la vie locale, quoi. C'est pas possible, en fait, de faire autrement. Il y a une question qui a l'air d'être brûlante là-bas.
Moi j'ai un avis un peu différent là-dessus. C'est qu'en France, on a complètement désertifié les campagnes. Je suis un plouc, moi je suis de la campagne. C'était un petit bled pas loin de Paris, mais de 200 habitants et 3 hameaux. Il y avait 3 épiceries, tabac. On pouvait en vélo, même à pied, tout faire. Et à partir du moment où les supermarchés et la bagnole qui est venue avec s'est installée, ça a été fini. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en fais des navettes gratuites au début pour les gens qui n'avaient pas les permis de conduire ou pas de bagnole. Puis une fois que tous les petits commerces sont tombés, ben, il n'y avait plus de navettes. Donc dégardez-vous. Et c'est ce qu'on voit pour tout maintenant. Le téléphone portable, il y avait des cabines avant. Maintenant, il n'y a plus de cabines. Donc tout le monde est presque obligé d'avoir un téléphone portable. Et tout est comme ça pour...
Vous l'avez dit, en fait, vous avez commencé, je me permets, mais vous avez dit les supermarchés et puis la voiture. En fait, c'est la voiture et donc, puis le supermarché. C'est-à-dire que le modèle de la grande distribution, il n'est rendu possible que par un système de déplacement où la voiture est un mode efficace, quoi. Et donc, effectivement, c'est un problème redoutable. C'est un problème redoutable, mais en même temps, on est déjà dans des territoires en crise, en fait. Je ne sais pas s'il faut commencer à lire politiquement ce qui se passe dans le monde agricole, mais en fait, c'est intenable. C'est des territoires extrêmement vulnérables à toute hausse des prix d'énergie, à tout choc d'approvisionnement dans du pétrole, à tout choc d'approvisionnement tout court, mais ça, c'est le cas pour la ville. Et pour moi, les gilets jaunes, c'était aussi ça. Enfin, c'est-à-dire que même si... ça a vachement débordé quand même. L'élément déclencheur, c'est cette question du prix du carburant, à une époque où le prix du carburant était quand même largement inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, qui est aussi un symptôme d'une crise, quoi, des territoires où l'automobile est le mode de déplacement dominant, mais qui n'est pas seulement... Donc c'est pas seulement le déplacement, en fait. C'est hyper central dans le mode de vie, et on voit bien que ça... ça crée des, voilà, des vies en tension, quoi. Moi, je ne sais pas comment on sort. Paul m'a dit, mais il faut que tu fasses un... Paul, l'éditeur, m'a dit, il faut que tu fasses un chapitre qui donne un peu envie et tout. Donc, j'ai mis un chapitre qui fait un peu envie. Mais fondamentalement, ma conviction, c'est qu'on n'a aucune idée d'à quoi ça ressemblera la vie au-delà de l'automobile. Parce qu'on voilà, on baigne tellement dedans que c'est très, très difficile de se dire, en fait, voilà, l'au-delà de la situation d'aujourd'hui, ça ressemblera à ça. On peut faire un travail de prospective, rêver un peu, faire de l'utopie, s'appuyer sur l'existant. Et c'est aussi l'autre force du vélo, c'est-à-dire que c'est un objet avec une énorme histoire, puis c'est aussi un objet qui est déjà là et qui crée un peu voilà, qui est le royaume en germe. C'est une pratique qui donne à voir le monde d'après sans être le monde d'après. Ouais, c'est un beau parallèle, ça.
On note. Il y a un tout petit point que je trouve très intéressant dans ton livre et que j'aimerais bien que tu réexpliques. C'est cette tu proposes, donc on a bien compris que non seulement il faut promouvoir le vélo, mais en plus un peu s'attaquer à la voiture. Et tu proposes notamment pour réguler la voiture d'inventer une autorisation de mise sur le marché, comme pour les médicaments. Tu peux nous expliquer en quoi ça consisterait ?
Ouais, je suis pas un énorme expert de l'autorisation de se mise sur le marché, donc s'il y a quelqu'un dont c'est le boulot, il va peut-être me désinguer là. Donc théoriquement, ce que j'en ai compris, c'est que un médoc, quand on veut commencer à vendre une molécule, on demande une autorisation de mise sur le marché qui est délivrée, donc je crois, par l'ANSES en France, et donc c'est une autorité qui évalue, alors sur la base d'études cliniques qui sont fournies par l'industrie pharmaceutique elle-même, ce qui est quand même problématique, mais en tout cas qui évalue le rapport risque-bénéfice en termes de santé. Qui régule fortement un marché sur la base de l'intérêt général. Ce que je constate sur l'automobile, juste avant, il y avait un espèce de conférence, rassemblement, mobilisation pour la votation parisienne du 4 février sur les SUV, auquel je vous invite à participer, pour voter pour la proposition de la ville de Paris. Et donc, il a rappelé, en fait, c'est intéressant, les gens rappelaient. Donc, depuis l'an 2000, les véhicules ont gagné 1 cm de large par an. Et un peu plus en termes de kilos. Et donc, aujourd'hui, on a des véhicules qui sont 250 kg plus lourds qu'il y a 20 ans et 25 cm plus larges en moyenne, 9, pas 25, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, vraiment plus large. Et donc, un truc qui est vraiment contraire à l'intérêt général, tant sur le plan climatique, parce que du coup, tous les gains d'efficience des moteurs sont annulés par la hausse du poids et la baisse de l'aérodynamie. Et par ailleurs, pour l'espace public, c'est un peu calamiteux, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on vient grignoter de l'espace à l'automobile et rééquilibrer l'espace public, et puis après, en fait, on vient nous poser des énormes steaks qui dépassent des places de stationnement, qui ne rentrent plus dans les places de parking. Enfin, c'est complètement hallucinant. Et alors le gouvernement reconnaît en fait que c'est un petit peu un problème, mais est complètement incapable d'agir dessus en disant bah oui, mais on va faire un malus poids ou je sais pas quoi qui fonctionne pas du tout, les ventes ne continuent, etc. Et dans la mesure où un véhicule, en fait, si c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de répondre à un besoin de déplacement, voilà, et que n'importe quel véhicule en circulation a un impact sur l'intégralité des usagers de l'espace public. Moi, ça ne me paraît pas déconnant d'imaginer que, avant qu'un véhicule puisse être commercialisé, et donc en fait vraiment produit en masse, un producteur d'automobile, un industriel, vienne voir en disant ben voilà, moi, c'est ça ma proposition de véhicule qui vient répondre à un besoin d'intérêt général de mobilité. Dites-moi si ça match aux critères d'intérêt général. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué de déterminer l'intérêt général sur les plans de mobilité que la santé publique, même si la santé publique, c'est un sujet compliqué. Et donc voilà, je propose ça, entre autres mesures, de, en fait, quand il faut radicaliser la critique des transports, je pense à ça, je pense à la construction des routes. Et voilà, il y a un des acteurs qui me semble complètement sous-estimé dans notre incapacité à sortir de l'automobile, enfin de ce rapport à l'automobile, c'est l'industrie automobile elle-même, qui fait vraiment exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
Et une dernière question que j'aimerais te poser avant qu'on laisse peut-être un débat s'installer, si vous voulez, c'est celle du cyclisme à la télévision, parce que toi, tu l'as dit, tu as vraiment tenu à le spécifier, tu te déplaces en vélo, mais surtout, tu ne fais pas du vélo sportif et tu n'aimes pas regarder le vélo sportif à la télévision. Est-ce que même tu dirais que c'est que le vélo à la télévision n'est pas un allié dans ton combat, et pourquoi?
Oui, je le dis. Après, on m'a dit que c'était pas bien. C'était les pages les plus controversées. Je pense que le vélo comme sport, le cyclisme, c'est un peu un héritage ambivalent. Enfin, un héritage, c'est pas mort, quoi, mais en tout cas, c'est un existant un peu ambivalent. Côté pile, c'est une histoire, c'est un patrimoine, c'est une industrie, c'est quelque chose auquel les gens tiennent. Enfin, en France, quoi, le vélo, c'est quelque chose, notamment par le sport, quoi. Côté pile aussi, il y a une forme de porosité entre le cyclisme et le déplacement à vélo. Il y a quelques exemples que je trouve très intéressants, mais plutôt côté anglo-saxon, de gens qui sont à la fois des athlètes et à la fois ont un rôle politique dans la promotion d'usage du vélo assez clair, notamment un mec qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais en tout cas qui est commissaire d'une agence de financement en Angleterre et au Pays de Galles, enfin voilà, qui est quelqu'un qui pèse vraiment très fort et qui met toute sa notoriété au service d'une transformation du système de mobilité. Mais côté face, ce que je constate en France, c'est que la place on va dire forte du cyclisme, notamment lié au Tour de France, fait que faire du vélo, se déplacer à vélo, en tout cas monter sur un vélo, c'est considéré comme quelque chose qui requiert un effort potentiellement surhumain, très compliqué. Je dis pas que faire la colline de Ménilmontant, c'est pas compliqué, mais la plupart du temps, c'est pas si compliqué que ça. Et aussi que, en fait, aujourd'hui, les acteurs du cyclisme sportif sont vraiment très 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 loin d'être des acteurs qui remettent en cause le statu quo, enfin, automobile, quoi. Voire qui le promeuvent activement. Donc dans le bouquin, je donne quelques exemples, mais tu m'en as donné un juste avant que je trouve très intéressant, qu'un des meilleurs cyclistes sportifs du moment, quoi, est sponsorisé par Lamborghini, donc il vient, il monte sa Lamborghini avant de monter sur son vélo. Donc Lamborghini, c'est une marque de voiture. Et je trouve que c'est pas c'est assez intéressant. Je suis pas choqué, en fait, ça m'étonne pas, et je pense que c'est bien le signe de que le système de déplacement a réussi à évincer l'option vélo comme mode de déplacement, aussi parce que elle en a fait un objet sportif, alors que ça n'était pas ça majoritairement.
On continuera le débat sur le Tour de France entre nous. Peut-être que d'autres personnes veulent poser une question ou intervenir de manière pas trop longue. On vous écoute. Des hommes et des femmes, parce qu'on on remarque souvent à Dorothy que beaucoup d'hommes parlent beaucoup et souvent trop.
Moi, j'ai une question. Tu as dit au début que tu formulais quelques critiques par rapport aux stratégies vélo et des principales organisations. Lesquelles sont-elles?
Pas tant que ça, en fait, vis-à-vis des organisations, parce que j'en suis quand même assez proche, mais j'ai tout un chapitre pour dire du mal des cyclistes. Il y a une forme de... Enfin, je sais... Enfin, c'est peut-être un peu un exercice littéraire, mais il y a quand même cette idée que tous les cyclistes sont des camarades et que une forme de bienveillance simplement parce que les gens se mettent sur des vélos, quoi. D'abord, moi, je suis contre l'usage. J'espère que je n'ai pas utilisé le mot cycliste aujourd'hui, mais je tâche de ne pas utiliser le mot cycliste pour des gens qui font du vélo pour se déplacer, parce que je ne crois pas que les cyclistes, ça existe. Il y a des personnes sur des vélos. Donc, je lutte fortement pour cette idée qu'il y a les cyclistes et les autres. Je pense qu'il y a des gens qui font le choix de se déplacer principalement à vélo, qui le promeuvent activement, mais ce n'est pas des cyclistes. Pour moi, il y a deux travers, on va dire, dans la manière de promouvoir le vélo. Il y a d'abord ce truc un peu corporatiste, potentiellement, genre syndicat de cyclistes. Moi, ça ne m'intéresse pas de défendre les gens qui font déjà du vélo. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait plus de gens qui puissent se mettre sur des vélos, ou en tout cas transformer la société dans son ensemble. Et un autre truc, c'est une autre critique parmi d'autres, hein, mais c'est l'idée que c'est un enjeu que le rapport de force, il se joue dans l'espace public tel qu'il est aujourd'hui. Donc des gens qui sont pas forcément qui ont pas la, enfin, c'est pas les stratèges des organisations pro-vélo restituées, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui se disent mon militantisme en faveur du vélo, c'est de me promener dans la rue et de donner des coups de cadenas sur les automobilistes qui font n'importe quoi, les engueuler, en fait d'être dans un rapport un peu en mode Rambo, quoi. C'est genre, c'est moi tout seul contre l'intégralité du système automobile. Et pour moi, ça, c'est une manière de militer pour le vélo qui est, je sais pas, viriliste et pas du tout inclusive et pas du tout révolutionnaire, en fait, quoi. Parce qu'elle vient, elle change absolument rien à l'état de fait, elle met les gens en tension, elle crée un climat anxiogène autour de l'usage de l'espace public, et en fait, une voiture, ça fait 1,3 tonne, et un vélo, ça en fait moins de 10. On joue pas à ce... Mais bon, c'est un peu anecdotique, je pense quand même.